nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais revenir un peu aujourd'hui au cours de ce sermon sur une des plus grandes fêtes de la liturgie catholique qui est passée un petit peu à l'ombre juste après Pâques. En fait, c'était la fête de l'Annonciation qui tombait cette année sur le jour du Vendredi Saint et qui donc n'a pas été célébrée avant le premier jour libre après le dimanche de Quasimodo. Donc je voudrais y revenir un petit peu aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de le faire auparavant. Avec l'Annonciation, on touche bien sûr le mystère de l'Incarnation, mes chers frères, qui est certainement de loin le plus grand des mystères de la foi catholique. Saint Augustin dit, pour le définir, « Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Dieu accepte de sans quitter bien sûr sa nature divine, de s'unir à une nature créée, totalement imparfaite comme notre nature humaine, pour que l'homme puisse être racheté du péché et récupérer sa dignité véritable qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cela, un mystère absolument insondable. Comment Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a-t-il accepté d'être uni à quelque chose de créé? Quelque chose d'incompréhensible. C'est ça qu'on appelle un mystère. Le mystère de l'incarnation, c'est ça, c'est le mystère par lequel, dans le sein très peu de notre Sainte Vierge Marie, le 25 mars, la nature divine s'est unie à la nature humaine sans cesser d'être Dieu. Il y a la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il y a évidemment deux natures dans ce cas-là. La nature divine, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, mais en même temps la nature humaine. Eh bien, cela nous aide à comprendre deux choses, me semble-t-il. Premièrement, cela nous aide à comprendre l'infinie miséricorde du bon Dieu pour nous. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse accepter de descendre à un tel degré d'humilité, lui qui est créateur du ciel et de la terre, d'accepter de descendre jusqu'à s'unir à quelque chose d'aussi vil que la nature humaine, il faut un amour pour sa créature absolument impensable. Et deuxièmement, le mystère de l'incarnation nous aide, mes bien chers frères, à comprendre l'infinité d'un certain côté, l'infinité du péché. Parce que si Dieu a dû s'incarner en sa deuxième personne, c'est précisément parce que le péché contient en lui-même une certaine infinie dans sa malice. Rappelez-vous ce que c'est qu'un péché, selon la définition de saint Thomas d'Aquin, c'est se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Dieu étant un être infini, il faut évidemment une réparation infinie. Donc quand j'ouvre la porte de mon âme, que je demande au bon Dieu de quitter la porte de ma maison et que je remplace le bon Dieu à l'intérieur de cette même âme par une créature qui va utiliser la même porte que le bon Dieu vient d'utiliser pour sortir de mon âme, je commets une faute d'idolâtrie. Et je me mets à adorer une créature. Et donc, comme l'adoration d'une créature entraîne le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, un être infini, quitte mon âme, il faut donc une réparation infinie. L'homme n'est pas capable de donner une réparation infinie, même s'il fait pénitence toute sa vie. Et donc il a fallu que le bon Dieu s'en mêle là pour que, par l'incarnation de son fils ayant une nature infinie, le péché soit en quelque sorte réparé par l'infinité de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère est tellement grand qu'il y a eu au cours dans l'histoire de l'Église des dizaines et dizaines d'hérésies à ce propos, justement parce que le mystère semblait trop grand et que beaucoup de gens se sont révoltés contre ce mystère. Soit en disant, il n'est pas possible que Dieu accepte de devenir homme, donc il n'est pas vraiment homme. Soit au contraire de dire, il est homme et donc il ne peut pas être Dieu en même temps. Et à ce moment-là, on tombe dans une autre hérésie. Ceux qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était les Ariens, qui considérait que notre Seigneur Jésus-Christ était qu'un homme, certes un homme, le premier parmi les créatures, disait Arius, mais il ne pouvait pas être Dieu à la fois qu'il était homme, parce que justement la divinité ne pouvait pas accepter de souffrir comme cela dans la passion. Soit au contraire, il y avait d'autres hérésies qui allaient nier l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ en disant, c'est pas possible que notre Seigneur, que Dieu puisse s'abaisser à une telle humiliation, et donc il n'est pas vraiment homme. Et là, on tombe dans toutes les hérésies docétistes qui niaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il faut s'accrocher, si vous voyez, à ces deux choses. Dieu est vraiment homme et en même temps vraiment Dieu. Vraiment Dieu. Il est Dieu sans cesser d'être homme. Il est homme sans cesser d'être Dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. Donc comment peut-on réunir dans une même personne à la fois l'immensité divine et la petitesse de l'homme? C'est là où est tout le mystère. À tel point que cela nous aide à comprendre, si vous voulez, l'extraordinaire dignité de notre Sainte Vierge Marie. Et lorsque les chrétiens, surtout les premiers siècles, comprenaient la dignité extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie, ils ont été tentés presque de la monter au niveau de la Sainte Trinité. Et il y a des hérésies qui ont commencé à se répandre à ce moment-là, qui disaient que notre Sainte Vierge Marie était une déesse. Cette hérésie continue, il y a très peu de monde dans cette hérésie, il y a encore quelques personnes, j'en ai rencontré deux fois, qui prétendent que Notre-Dame est vraiment Dieu. Notre Sainte Vierge Marie n'est pas Dieu. Notre Sainte Vierge Marie est une créature, une pure créature, certes sans la marque du péché originel, elle est Immaculée Conception, mais elle est une créature. Et les pères de l'Église, pour manifester le fait que notre Sainte Vierge Marie était littéralement au-dessus des autres créatures par sa dignité extraordinaire, ils parlaient justement d'un culte spécial à rendre à notre Sainte Vierge Marie, justement à cause de cela. Et les pères de l'Église, certains pères allaient jusqu'à dire que notre Sainte Vierge Marie touchait à la divinité. Elle n'était pas Dieu, mais elle touchait à la divinité. Tellement son statut était élevé. Et cela nous aide à comprendre le rôle extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie, qui par son fiat, au moment précis où elle a accepté de devenir mère de Dieu, notre Sainte Vierge Marie, en quelque sorte, est devenue partie intégrale du mystère de la rédemption. On ne peut pas séparer les deux mystères. On ne peut pas séparer l'incarnation et la rédemption. L'incarnation mène à la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour mourir. Pourquoi meurt-il sur la croix? Il meurt sur la croix pour rattraper nos péchés. Comme nous sommes coupables, nous ne voulons pas faire pénitence, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas coupable, qui est innocent, vient faire pénitence pour nous. Donc, notre Seigneur Vierge Marie n'est pas Dieu, mais elle est mère de Dieu. Et pendant des siècles, les premiers siècles de l'histoire de l'Église, il y a eu des disputes théologiques énormes, justement, sur ce titre de notre Seigneur Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie n'est pas Dieu, mais elle touche à la divinité. Donc pouvons-nous l'appeler mère de Dieu? Certains théologiens disaient, certains évêques disaient, dans les premiers siècles, notre Sainte Vierge Marie est mère du Christ, mais elle n'est pas mère de Dieu. Il a fallu attendre plusieurs siècles avant que l'Église, justement, puisse imposer la doctrine véritable sur ce sujet. C'était surtout le travail d'un très grand saint qui s'appelait, un grand-père de l'Église, qui s'appelait Saint Cyril d'Alexandrie. Et ça s'est fait simplement au 5e siècle. C'est au 5e siècle, avec le concile d'Éphèse en 431, que ce dogme a été institué pour expliciter les choses et empêcher justement toutes les hérésies d'un côté comme de l'autre. Tous les pères conciliaires s'étaient réunis dans la basilique d'Éphèse. Aujourd'hui, je crois qu'Éphèse est en Turquie, en Asie mineure, donc. Et il y avait beaucoup de catholiques dans la ville d'Éphèse, c'est une ville commerçante très importante, et tous les catholiques s'étaient réunis, même les non-catholiques s'étaient réunis autour de l'abbaye pour voir ce que ça allait donner. Et c'est toute l'influence de Saint Cyril d'Alexandrie qui a expliqué, attention, notre Sainte Vierge Marie est mère d'une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cette personne est Dieu, notre Sainte Vierge Marie est véritablement mère de Dieu. Elle est théotokos, disait-il. Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu en grec. Et au moment où finalement les pères de l'Église les membres de ce concile d'Éphèse ont reconnu que c'était vraiment le titre qu'il fallait donner à notre Sainte Vierge Marie, qui était véritablement mère de Dieu, le légat pontifical a quitté, sorti de la basilique par la porte principale, toute la foule était devant lui, et il a crié, elle est Théotokos, elle est mère de Dieu. Et à ce moment-là, Daras explique dans son histoire de l'Église que s'est organisée spontanément la plus incroyable procession qui ait jamais existé dans l'Église. Toute la ville s'est levée en liesse pour faire une énorme procession au flambeau en l'honneur de notre Sainte Vierge Marie, parce que justement, elle était Théotokos, mère de Dieu. Il est très intéressant aussi de voir que ces mêmes pères de l'Église allaient chercher dans l'Ancien Testament déjà un passage qui manifestait de façon allégorique le mystère de l'incarnation. Et ils ont pris comme, comme modèle, ça semble étrange, mais c'est magnifique. Ils ont pris comme modèle allégorique le buisson ardent. Vous connaissez cette histoire du temps de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, tout à fait au début de la Sainte Bible. Moïse surveillait les troupeaux de son beau-père, Jéthro, dans le désert du Sinaï. Et il a vu dans ce désert un buisson qui brûlait sans se consumer. Alors il s'approcha de ce phénomène qu'il n'avait jamais vu, évidemment incroyable, un buisson qui brûle, déjà étonnant, en plein jour, et en plus qui brûle sans être consumé. Et à ce moment-là, une voix retentit qui lui disait, la terre que tu foules aujourd'hui est sainte, enlève tes sandales. Et Moïse a obéi immédiatement, et à ce moment-là, Dieu s'est manifesté à lui pour la première fois en lui disant, je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Et pour comprendre cette phrase, il faut passer par les explications données par Sainte Catherine de Sienne. Elle a vu notre Seigneur plusieurs fois. Et Sainte Catherine de Sienne, une fois, notre Seigneur Jésus-Christ lui a parlé de ces choses-là. Et comme elle ne comprenait pas bien cette phrase, je suis celui qui suis, qui est une phrase très complexe au plan philosophique, sur le plan philosophique, notre Seigneur Jésus-Christ lui a expliqué en lui disant, tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui est. Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre existence, vous, Catherine, vous l'avez parce que je vous l'ai donnée, moi je l'ai par moi-même. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a pu dire, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Et on ne peut pas dire ça. On ne pourrait pas dire, je suis la voie, la vérité, la vie. On peut dire, j'appartiens à la voie, j'appartiens à la vérité, j'appartiens à la vie. On ne peut pas dire, je suis la voie, la vérité, la vie. Justement parce que nous ne sommes pas l'être existentiel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est par lui-même. Et donc le buisson ardent a été utilisé de tout temps par les pères de l'Église pour représenter le mystère de l'incarnation. Donc il y a deux choses dans ce buisson ardent. Il y a une flamme qui brûle, un feu qui brûle, et un être matériel, à savoir un buisson, qui ne se réduit pas en cendres sous l'effet de la chaleur, l'effet du feu. Bien, le feu qui brûle représente la divinité. Le buisson qui, au contraire, bien qu'être matériel qui devrait être détruit par le feu, n'est pas détruit, ça représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ne détruit pas l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont parfaitement unies en la présence de notre Seigneur, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci explique pourquoi Notre-Dame a eu, à cause de ce mystère de l'incarnation, a eu droit à un titre de gloire supplémentaire extraordinaire, encore presque plus extraordinaire que le premier, à savoir qu'elle est co-rédemptrice. Notre Seigneur Jésus-Marie n'est pas simplement mère de Dieu, la maternité divine est évidemment à la base de tous les titres de gloire de notre Seigneur Jésus-Marie, mais parce qu'elle est mère de Dieu, elle participe de façon personnelle, directe, au mystère de l'incarnation, de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, va mourir pour nous sur la croix. Et comme notre Sainte Vierge Marie est unie à son Fils par le mystère de l'incarnation, eh bien, elle va être unie à son Fils aussi par le mystère de la rédemption. Tout ce titre de gloire extraordinaire, notre Sainte Vierge Marie, elle est co-rédemptrice du jour humain. Co-rédemptrice du jour humain, pourquoi? Parce que de même qu'elle a participé par l'acceptation de l'incarnation, quand elle a dit son fiat à l'ange Gabriel qui venait lui présenter la possibilité d'être mère de Dieu, quand elle a dit « Fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole », quand elle a donné son acquiescement au gros bon Dieu, à ce moment-là précis, elle est devenue véritablement mère de Dieu. Et en acceptant d'être mère de Dieu, elle a accepté de souffrir avec son Fils. Puisqu'elle savait très bien que notre Dieu devenait homme pour souffrir. Et donc, si elle devenait mère de Dieu, elle devenait évidemment participer à la souffrance de son Fils. Et c'est un mystère presque aussi grand que celui de l'incarnation, à savoir que la très sainte Vierge Marie, par son acceptation, sa participation au mystère de l'incarnation, participait aussi au mystère de la rédemption. Elle est vraiment co-rédemptrice du jour de l'an. C'est un peu pareil pour nous, eh bien, chers frères. Voyez-vous, lorsque nous communions en état de grâce, eh bien, il se fait en nous, d'une certaine façon, un renouvellement du mystère de l'incarnation. De la même façon que dans la Très Sainte Vierge Marie, se sont mélangés dans son sein, pendant les 9 mois d'attente, entre le 25 mars et le 25 décembre, sont mélangés dans son sein, parfaitement unis, et l'humanité et la divinité, de la même personne, de la même façon, lorsque nous communions l'état de grâce, Dieu rentre dans nos âmes, il rentre dans une âme humaine créée, mais il apporte à cette âme humaine créée quelque chose d'infini, la divinité. Et nous recevons donc le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. Et donc nous devons avoir par la Sainte Communion cette union extraordinaire qui s'apparente à l'union postatique qu'il y a dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même que notre Seigneur Jésus-Christ étant véritablement Dieu et véritablement homme, à une union parfaite de la divinité de l'humanité, de la même façon, par la Sainte Communion, nous unissons notre humanité avec la divinité de notre Seigneur. Avec évidemment une différence essentielle, laquelle c'est le fait que l'union entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas éternelle, attention, puisque cette union a commencé, pas oublier ça, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas toujours été homme. L'humanité a été créée. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre pour éviter de tomber dans l'origénisme. Notre Seigneur Jésus-Christ a été créé en tant qu'homme. Donc on ne peut pas dire que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours existé, ce qu'on entend beaucoup trop parfois dans les milieux traditionnalistes. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a été créée de toutes pièces le 25 mars. Donc c'est ça le grand mystère, c'est que Dieu accepte de s'unir à quelque chose de créé. Donc Dieu accepte de s'unir à quelque chose de créé, mais une fois que cette création, à savoir l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été effectué, l'union entre le corps, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ et sa divinité va rester pour toujours. Donc l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ unie à la divinité, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ unie à la divinité, au ciel et bien sûr maintenant au sein de la Sainte Trinité. Ce sont des mystères qui sont extraordinaires. C'est pour ça qu'il y a tant de d'hérétiques qui ont refusé ce mystère. Eh bien, c'est la même phase, même chose qui se passe en nous, par la Sainte Communion. Si je communie un tas de grâce, j'unis l'humanité et la divinité en moi. Bon, évidemment, cette union va durer que pendant quelques minutes, tant que les saintes espèces demeurent dans mon estomac. À partir du moment où, au bout d'une dizaine de minutes, les sucs gastriques vont dissoudre l'hostie consacrée, la substance de notre Seigneur Jésus-Christ va disparaître. Mais d'un certain côté, quand on communie un état de grâce, eh bien, on renouvelle en quelque sorte ce qu'a fait notre Sainte Vierge Marie. On est comme notre Sainte Vierge Marie, d'une certaine façon, où nous unissons notre pauvre humanité avec la divinité. C'est pour ça que le péché des péchés, c'est vraiment recevoir notre Seigneur Jésus-Christ un état de grâce, un état de péché mortel, pardon, parce qu'à ce moment, on unit la divinité avec une nature qui est complètement souillée par le péché. Et le troisième point qui me semble aussi très important à comprendre et à expliquer, c'est que cette union entre notre Seigneur Jésus-Christ et notre humanité se réalise aussi dans son corps mystique, à savoir dans l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement Fils de Dieu, et comme il a créé une Église, l'Église catholique devient le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes membres de cette Église par le baptême, nous sommes membres donc du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela nous donne, si vous voulez, un titre de plus à être unis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien, en tant que chrétien, qui vit en état de grâce, est membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, membre de l'Église catholique. Et par cette union avec l'Église catholique, justement, on a en nous cette divinité, c'est cela qui nous donne les forces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Et cette divinité de l'Église catholique est absolument, ne peut pas disparaître. C'est absolument impossible. Elle ne peut pas disparaître. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu ne peut pas disparaître. Même si l'Église catholique est réduite humainement parlant à une peau de chagrin, rappelez-vous cette prophétie de Cardinal Pi, je crois, qui disait que l'Église serait réduite à des dimensions domestiques, c'est-à-dire à simplement quelques familles éparpillées de par le monde qui conservent la foi, même s'il y a un petit troupeau qui garde la foi, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, ce petit troupeau appartient toujours à une Église qui est divine, le corps mystique du Christ. Pour cela que dans l'Église catholique, il y a trois parties, il y a l'Église d'ici-bas, à savoir l'Église militante, l'Église du purgatoire, l'Église souffrante et l'Église au ciel, qui est l'Église triomphante. Et c'est l'association de ces trois églises, en quelque sorte, qui forme le corps mystique du Christ, l'Église catholique. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes les grâces dont nous avons besoin pour comprendre l'incroyable dignité de l'homme. Mais de comprendre que cette dignité de l'homme vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la dignité à l'homme. Et quand l'homme vit en état de grâce, il a une dignité extraordinaire. Quand l'homme vit dans le péché, il perd cette dignité, parce qu'il perd l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est capital à comprendre pour éviter de tomber dans les erreurs de l'Église de Vatican II, dans les erreurs actuelles de la République des judéo-maçonniques, eh bien, où ils enseignent exactement le contraire. Dans le monde moderne, ils sont persuadés que l'homme par lui-même a une dignité, ce qui est complètement faux. L'homme n'a aucune dignité par lui-même. Quand on parle de la dignité de l'homme aujourd'hui, séparée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une dignité qui est fausse, qui n'existe pas. L'homme n'a pas de dignité. C'est Dieu qui donne la dignité à l'homme. C'est dans la mesure où on est uni avec notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité qu'on trouve justement notre dignité. Mais si l'homme moderne, dans son orgueil, se coupe de Dieu, il se coupe de la dignité. Donc il devient esclave. Donc l'homme moderne qui refuse Dieu pour prétendre avoir obtenir sa dignité, en fait, au lieu d'obtenir une dignité, il obtient son état d'esclavage. Il devient esclave. Il devient esclave du péché parce qu'il perd la seule chose qui lui permet de lui donner une véritable dignité, à savoir l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut demander pour cela à la Très Sainte Vierge Marie, elle qui est mère de l'Église, n'oubliez pas que c'est aussi un de ses titres, elle est mère de l'Église, parce que comme elle est mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est évidemment mère du corps mystique, c'est logique, elle est mère de l'Église, demandons-lui la grâce de la fidélité. Demandons-lui la grâce de ne jamais perdre cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ par le péché. Le péché, c'est quelque chose d'épouvantable, justement parce qu'on perd ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre dignité. Donc demandons de garder toujours cette dignité, la dignité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu qu'on a reçu par le baptême et que malheureusement nous perdons par le péché. Donc si nous l'avons perdu par le péché, retrouvons-la, recouvrons immédiatement cette dignité par l'intermédiaire de la sacrement de pénitence. C'est ce que disait un grand père de l'Église, Saint Léon, qui dit « Chrétien, souviens-toi de ta dignité, rappelle-toi par quel sang tu as été sauvé, rappelle-toi par quel sacrifice tu as été racheté. » Nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rachetés par le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui se renouvelle sur l'autel. Donc demandons toutes ces grâces de compréhension, d'intelligence à notre Sainte Vierge Marie. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.